Chapitre 4. Rapport du MIS, établi le 12 mai 1946, intitulé « Rice Bowl Hill Incident 1944 Report ». Numéro de dossier PTYX-722-8936745-42216-WWN. Enregistrement sur magnétophone. L'interrogatoire ci-dessous est celui de Jushui Nakazawa, 53 ans, directeur d'une clinique de la ville de à l'époque de l'incident. Le dossier complet concernant cet enregistrement sur magnétophone a été classé sous le numéro PTYX-722-SQ-162-183-I. Impression du sous-lieutenant Robert O'Connell, chargé de l'interrogatoire. Avec sa haute taille, sa constitution robuste et son visage hâlé, le docteur Nakazawa ressemble davantage à un contremaître dans une exploitation agricole qu'à un médecin. Il est affable, mais sa manière de parler est incisive et directe. Il s'exprime avec une grande franchise. Ses yeux brillent d'un éclat vif derrière ses lunettes. Sa mémoire semble fiable.
Oui. J'ai reçu un appel un peu après 11h du matin le 7 novembre 1944, émanant du sous-directeur de l'école municipale. Il m'a prévenu le premier parce que j'étais le médecin scolaire en poste sur cette école. Il semblait paniqué. Les élèves d'une classe de primaire, partis chercher des champignons sur la colline, se sont évanouis au milieu de la cueillette, m'a-t-il dit. Ils étaient tous inconscients. Seule l'institutrice qui les accompagnait était consciente. Elle était descendue demander de l'aide et venait d'arriver à l'école. Mais elle était sous le choc, et ce n'était pas facile de comprendre ses explications. Une chose était sûre, 16 enfants avaient brusquement perdu connaissance sur la colline. Comme ils étaient allés chercher des champignons, j'ai tout de suite pensé qu'ils en avaient mangé des vénéneux, ce qui avait provoqué une paralysie du système nerveux. Dans ce cas, l'affaire est grave. Chaque champignon a une substance vénéneuse particulière, à laquelle correspond un antidote spécifique. Nous pouvions, dans un premier temps, leur faire un lavage d'estomac. Mais si le poison était puissant et la digestion déjà avancée, il n'y aurait plus rien à faire. Dans cette région, chaque année, plusieurs personnes perdent la vie à cause des champignons. J'ai sur le champ rempli mon sac de tous les médicaments d'urgence que j'avais sous la main. J'ai enfourché mon vélo et je me suis précipité à l'école. Deux policiers qui avaient été prévenus étaient déjà sur place. Il fallait des bras pour ramener jusqu'en ville les enfants inconscients. Mais c'était la guerre, et la plupart des hommes jeunes étaient au front. Il n'y avait que les deux policiers, le directeur, le sous-directeur, un enseignant d'un certain âge, le gardien, la jeune institutrice et moi. Nous nous sommes dirigés vers la montagne. Nous avions rassemblé tous les vélos qui se trouvaient là. Comme ça ne suffisait pas, certains étaient à deux sur une bicyclette. Vers quelle heure êtes-vous arrivé sur les lieux de l'incident ? Je me le rappelle bien parce que j'ai regardé ma montre juste à ce moment-là. Il était 11h55. Nous avons roulé jusqu'en bas de la colline et quand ça n'a plus été possible à bicyclette, nous avons gravi le sentier presque en courant. Quand je suis arrivé, quelques enfants avaient plus ou moins repris connaissance et s'étaient relevés. Combien ? 3 ou 4, quelque chose comme ça. Je dis « relevés », mais ils n'étaient pas vraiment remis de leur choc. Certains se redressaient en chancelant, d'autres étaient à quatre pattes ou avaient les mains sur le sol. La plupart d'entre eux étaient encore étendus par terre, et parmi ceux-là, quelques-uns semblaient commencer à reprendre conscience. Leur corps ondulait lentement comme de gros insectes rampants. C'était un spectacle plutôt curieux. L'endroit où ils étaient évanouis était une clairière étrangement vaste, où pénétrait la lumière du soleil d'automne comme à l'écart du reste de la forêt. Les écoliers gisaient là, chacun dans une position différente. Certains bougeaient, d'autres restaient immobiles. On aurait dit une pièce de théâtre d'avant-garde. J'en ai eu le souffle coupé et suis resté cloué sur place, oubliant ma mission de médecin. Je n'étais pas le seul. Tous mes compagnons semblaient eux aussi en proie à un état de paralysie momentanée. C'est étrange à dire, mais j'ai même eu l'impression de surprendre une scène qu'aucun être humain ordinaire n'aurait dû voir. C'était la guerre, alors même au fond de notre campagne, nous, médecins, étions préparés à affronter des situations d'urgence. Nous savions que, quoi qu'il arrive, il faudrait accomplir avec calme notre devoir de citoyen. Mais, sur le moment, ce spectacle m'a littéralement glacé. Toutefois, je me suis tout de suite ressaisi, et j'ai pris dans mes bras un des enfants évanouis. C'était une fille. Elle pendait, toute molle, comme une poupée de chiffon. Sa respiration était régulière, mais elle était inconsciente. Ses yeux, grands ouverts, suivaient quelque chose en allant de droite à gauche. J'ai sorti une petite lampe de ma sacoche et éclairé ses pupilles. Pas de réaction. Ses yeux fonctionnaient normalement et regardaient quelque chose, mais ne réagissaient pas à la lumière. C'était bizarre. J'ai relevé quelques autres enfants. Leur réaction était exactement la même. Ensuite, je leur ai pris le pouls et la température. Leur tension était en moyenne entre 50 et 55. Leur température inférieure à 36 degrés. 35,5 si je m'en souviens bien. Oui, pour des enfants de cet âge, le pouls était assez lent. Et la température trop basse, d'un degré. J'ai reniflé leur haleine, il n'y avait aucune odeur bizarre. Il n'y avait rien à signaler non plus du côté de la gorge ou de la langue. Il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire. Aucun n'avait vomi, aucun n'avait la diarrhée. Aucun ne semblait souffrir d'où que ce soit. S'ils avaient ingurgité une substance vénéneuse, l'un au moins de ces trois symptômes aurait déjà dû apparaître, depuis le temps. Une fois que j'ai été certain qu'il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire, je me suis senti soulagé. Mais que s'était-il passé alors? Aucune idée. Les symptômes ressemblaient à ceux d'une insolation. En été, les enfants en sont souvent victimes. Si l'un s'évanouit, il arrive que ses copains tombent à leur tour, comme lors d'une épidémie. Mais on était en novembre. En plus, nous étions dans une forêt. Il faisait frais. S'il ne s'était agi que d'un ou de deux enfants, c'était encore plausible. Mais il était inconcevable que ces enfants attrapent tous une insolation en même temps et à cet endroit. J'ai ensuite pensé au gaz. Un gaz toxique, paralysant les nerfs, naturel ou artificiel. Ne me demandez pas comment il aurait pu y avoir du gaz aussi loin des habitations. Mais cette hypothèse permettait d'expliquer logiquement le phénomène. Les enfants avaient tous absorbé du gaz et s'étaient évanouis. L'institutrice était la seule à y avoir échappé, parce que le gaz avait une faible densité. Mais dans ce cas, quelle soif allait-il leur apporter? Là, je nageais dans le brouillard. Je ne suis qu'un modeste médecin de campagne, comme vous le voyez. Je n'ai pas la moindre connaissance des gaz toxiques. Nous étions dans la montagne. Il nous était impossible d'appeler un spécialiste. Comme quelques-uns des enfants montraient des signes avant-coureurs de réveil, il fallait espérer qu'avec un peu de temps, les choses rentreraient naturellement dans l'ordre. C'était une perspective optimiste, sans aucun doute, mais honnêtement, je n'avais pas d'autre idée. Nous avons donc décidé de les laisser allonger sur place, au calme, et d'attendre la suite des événements. L'air des environs ne présentait-il pas une anomalie quelconque? Cette question me préoccupait. J'ai pris plusieurs inspirations profondes, me demandant s'il n'y avait pas là quelque chose d'anormal. Mais ça sentait l'air frais et le bois, comme dans toutes les forêts de montagne. Un air frais qui fleurait bon les arbres. Les fleurs et les herbes des environs ne présentaient pas la moindre anomalie. Aucune n'avait changé de forme, ni de couleur. J'ai examiné un par un les champignons que les enfants avaient ramassés. Il n'y en avait pas beaucoup. Sans doute s'était-il évanoui peu après le début de la cueillette. Tous les champignons étaient comestibles, des espèces très courantes. Je connais assez bien les variétés qui poussent dans cette région. Bien sûr, par précaution, nous avons rapporté les champignons, les avons fait examiner par un spécialiste. Mais aucun ne présentait la moindre toxicité. Les enfants évanouis avaient-ils des réactions anormales à part l'agitation des pupilles? La taille de la pupille, le blanc de l'œil, la fréquence des battements de paupières, par exemple, tout cela était-il normal? Oui. Rien de particulier à signaler. À part leurs pupilles qui balayaient leur champ de vision de droite à gauche comme des projecteurs. Les enfants regardaient quelque chose. Pour être plus précis, ils semblaient ne pas voir ce que nous voyons nous, mais suivre des yeux quelque chose qui nous échappait. Pas un objet, mais un événement dont ils étaient témoins. Ils n'avaient pas d'expression particulière. Ils donnaient une impression générale de sérénité. Toute trace de douleur ou de crainte était absente de leur visage. Si j'ai eu l'idée de les garder en observation sans rien tenter, c'est aussi pour cette raison. Je me disais, s'ils ne souffrent pas pour le moment, pourquoi ne pas les laisser comme ça quelque temps? Sur le moment, avez-vous parlé à quelqu'un de votre hypothèse concernant la présence d'un gaz? Oui, j'en ai parlé. Mais personne n'y a cru. On n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait inhalé du gaz toxique au cours d'une balade en montagne. Quelqu'un, le sous-directeur de l'école, je crois, a suggéré que l'armée américaine avait pu utiliser une arme chimique. Après tout, l'institutrice avait vu un appareil qui ressemblait à un B-29 survoler la colline. Tout le monde s'est écrié aussitôt « Ah oui, c'est peut-être bien ça, une bombe toxique d'un nouveau type mise au point par les Américains !» Mais pourquoi aurait-il largué une bombe pareille au fin fond de la montagne? Ça, personne n'aurait su le dire. Mais il faut compter avec les marges d'erreur. L'intelligence humaine n'est pas infaillible. Et l'opération ne s'était peut-être pas déroulée comme prévu. Ensuite, les enfants sont revenus petit à petit à eux naturellement, n'est-ce pas? C'est cela. Ce que nous étions soulagés. Ils ont commencé par se tortiller. Puis, ils se sont redressés en chancelant et ont repris peu à peu conscience. Aucun ne se plaignait de douleur. C'était comme s'ils se réveillaient très calmement d'un profond sommeil. Au fur et à mesure qu'ils reprenaient connaissance, les mouvements de leurs yeux redevenaient normaux. Ils ont fini par réagir normalement lorsque je leur éclairais les pupilles avec la lampe de poche. Mais il leur a fallu quelque temps avant de pouvoir parler. Leur état ressemblait à celui d'une personne ensommeillée. Nous avons demandé à chacun d'eux de raconter ce qui lui était arrivé. Mais ils restaient tous bouche bée, comme si on les interrogeait sur des choses qui ne les concernaient pas. Ils ont réussi tant bien que mal à se rappeler le déroulement des événements jusqu'au moment où ils ont gravi la colline et commencé à cueillir des champignons. Mais à partir de là, leurs souvenirs ont semblé effacés. Ils n'avaient aucune idée du temps qui s'était écoulé. Ils avaient commencé à cueillir les champignons, puis le rideau était tombé d'un coup, et l'instant d'après, ils étaient allongés par terre, entourés par des adultes. Ils ne paraissaient pas comprendre pourquoi nous étions si sérieux et faisions autant de foin à propos de tout ça. Ils avaient même l'air effrayés par notre présence. Malheureusement, un des garçons ne revenait pas à lui. C'était un petit réfugié qui venait de Tokyo et qui s'appelait Satoru Nakata, je crois bien. Il était petit, le teint clair. C'est le seul qui était resté couché sur le sol à agiter les pupilles. Nous avons redescendu la colline en le portant sur notre dos. Les autres enfants sont descendus à pied, comme si de rien n'était.
Hormis ce petit Nakata, aucun enfant n'a montré de symptômes particuliers par la suite ?
Non. Je n'ai constaté aucune anomalie visible.
Ils ne se sont plaints d'aucune douleur, d'aucun malaise.
De retour à l'école, je les ai tout de suite emmenés à l'infirmerie. J'ai écouté les battements de leur cœur au stéthoscope. J'ai contrôlé leur vue, vérifié tout ce qu'on pouvait vérifier. Je leur ai fait faire des calculs simples, les ai fait tenir en équilibre sur une jambe. Toutes leurs fonctions corporelles étaient normales. Ils ne semblaient pas fatigués physiquement. Ils avaient de l'appétit. Comme ils n'avaient pas déjeuné, ils avaient faim. Nous leur avons distribué des boulettes de riz et ils les ont mangées sans laisser un seul grain. Les jours suivants, je suis retourné à l'école pour surveiller l'état des enfants. J'en ai convoqué quelques-uns à l'infirmerie pour des entretiens. Toujours aucune anomalie. Alors qu'ils étaient restés inconscients 2 heures dans la montagne, ni leur esprit ni leur corps ne conservaient la moindre trace de cette expérience hors du commun. Ils ne se souvenaient même pas de ce qui s'était passé. Ils étaient retournés à leur vie quotidienne, à leurs occupations habituelles. Ils participaient aux cours, chantaient, chahutaient avec énergie pendant la récréation. En revanche, l'institutrice qui les accompagnait est restée assez longtemps en état de choc. Le lendemain, l'écolier du nom de Nakata n'avait toujours pas repris connaissance. Aussi, l'a-t-on conduit à l'hôpital universitaire de Kofu, d'où il aurait été immédiatement transféré dans un hôpital militaire, à ce qu'on m'a dit. En tout cas, il n'est jamais revenu dans la région, et personne ne nous a jamais dit ce qu'il était devenu. Ce cas d'évanouissement collectif n'a jamais été diffusé dans la presse. Les autorités l'ont sans doute interdit afin de ne pas troubler davantage les esprits. On était en temps de guerre. L'armée veillait à couper court aux rumeurs. La situation militaire se dégradait rapidement. Les redditions et les opérations suicides se poursuivaient dans le sud. Les raids aériens américains s'intensifiaient. L'armée craignait que la population n'éprouve une lassitude et un dégoût croissant vis-à-vis de ce long conflit. Des policiers envoyés quelques jours plus tard dans la région nous ont mis en garde et fortement engagés à ne pas divulguer d'informations sur cette affaire. Dans tous les cas, c'était un incident décidément bien mystérieux qui m'a laissé un arrière-goût désagréable. Pour être franc, aujourd'hui encore, cette histoire est comme un poids sur ma poitrine.